Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la semaine dernière, nous avons terminé le sermon sur les qualités de la prière, qualités grâce auxquelles notre prière sera infaillible. Il faut prier avec foi, c'est évident. Nous croyons en Dieu, sinon c'est de l'idolâtrie, avec confiance, là aussi c'est évident, avec persévérance, c'est pourquoi je vous ai raconté l'événement voulu par le Saint-Esprit, à savoir Naaman se baignant 7 fois dans le Jourdain. Il faut surtout, demander ce qui convient. Il est évident que la prière n'a pas pour but d'accomplir nos caprices, mais comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, de mettre notre volonté en accord avec celle de Dieu. Notre Seigneur nous a enseigné ce qu'il fallait demander et comment le demander. La prière est tellement importante qu'il nous a donné le Notre Père, qui est la prière par excellence. Je sais bien que dans le chapelet, nous disons « Dis, je vous salue Marie » pour un Notre Père. Nous verrons pourquoi l'Église et Dieu même donnent tant d'importance à la Très Sainte Vierge. Mais avant le chapelet, la prière qui ressemblait au chapelet était la répétition des Notre Père. Nous commençons le Notre Père justement en disant « Notre Père qui êtes aux cieux ». Il y a dans ces quelques paroles déjà beaucoup de richesse. Tout d'abord, de nous adresser à notre Père nous donne beaucoup de confiance. C'est un Père qui nous écoute. Rien que cela est très important, et aucun de ceux qui se sont éloignés de la foi catholique ne peuvent s'adresser à Dieu comme à un père. Les musulmans s'adressent à un Dieu complètement déformé qui est tout sauf un père, qui est un Dieu jaloux. Les protestants s'adressent à un Dieu qui les ignore, et ils s'adressent peu à lui d'ailleurs, etc. Il y a bien l'Indien, la mère Indien, qui, à la réunion d'assises, où se sont réunis ce qu'on appelle toutes les religions, en réalité, tous les faux cultes avec le vrai culte. La mère Indien a prié le Dieu qui est le pouce qui pousse l'univers, celui qui, lorsqu'il laisse une trace sur le rocher, se voit encore moins que la gazelle. C'est très beau, mais enfin, ça, c'est pas très paternel. Notre Père, qui êtes aux cieux, cela montre la toute-puissance de Dieu. Et donc vous avez la conjonction, la réunion, de la toute-puissance de Dieu avec sa paternité. Cette paternité, il est d'abord Père de Jésus-Christ, et donc lorsque nous nous adressons à Dieu le Père, nous nous présentons comme frères de Jésus-Christ, et donc comme frère du crucifié. Il y a dans l'invocation de ce mot Père, de cette qualité de Dieu Père, il y a une très grande richesse. Nous nous présentons unis à Jésus-Christ. Et cela signifie que nous devons nous mettre au pied de la croix avec Jésus-Christ pour prier Dieu le Père. Je ne vais pas revenir sur l'importance du mystère de la croix, surtout la richesse du mystère de la croix. Nous y reviendrons peut-être une autre fois. Mais il est très important, et cela va nous mettre dans un état d'esprit. Nous nous adressons à Dieu notre Père comme Jésus-Christ s'est adressé à Dieu son Père. Parce que Jésus-Christ a prié. Parce que Jésus-Christ est en fait homme, a soumis sa nature humaine à Dieu. Bien entendu, Jésus-Christ n'a pas prié pour obtenir que cette nature soit soumise, parce qu'elle l'était pleinement. Mais il a prié pour que cette nature soit effectivement à sa place dans le plan de Dieu. Notre Seigneur a demandé dans sa prière ce qui était bon pour nous. Il a prié pour nous. Et donc nous devons prier avec lui et reprendre sa prière à notre compte. Ensuite, notre Père qui êtes aux cieux, sainte Thérèse d'Avila, dit à ses religieuses, « Mes chères sœurs, ne cherchez pas Dieu loin, car il est dans les cieux, mais les cieux sont en vous, puisque notre Père habite en vous par la grâce, et que vous êtes les temples de la divinité, temple du Saint-Esprit, donc évidemment temple de Dieu si bon. » Voilà encore quelque chose d'extraordinaire, et que personne d'autre que nous qui avons la foi ne peut posséder. Nous ne nous adressons pas à un Dieu ni étranger, ni éloigné de nous, mais à Dieu qui vit en nous. Et saint Thomas nous dit comme objet de connaissance et d'amour, c'est-à-dire comme un ami, il vit en nous comme un ami connu et aimé. C'est à lui que nous nous adressons. Notre Père, le pluriel, notre. Nous ne prions pas mon Père, même lorsque nous prions seuls, en notre particulier. À cause de tout ce que je vous ai dit sur la vertu de justice, qui est une vertu générale dans laquelle nous sommes solidaires de tous les autres, et surtout à cause de la vertu de charité, qui nous rend encore plus solidaires de tous les autres hommes surtout, mais les chrétiens particulièrement, ou ceux qui doivent devenir chrétiens et que Dieu appelle à la conversion. C'est une autre question. Devons-nous prier pour autrui? Nous y répondrons une autre fois. Nous prions donc notre Père. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons une place à tenir dans la marche de l'Église, dans le culte que l'Église tout entière rend à Dieu, et dans les épreuves actuelles, nous avons une place à tenir parce que nous ne sommes pas seuls, et d'autres tiendront par nous qui ne tiendraient pas sans nous. Saint Thomas d'Aquin nous explique que la prière du Notre Père nous dit ce que nous devons désirer et l'ordre dans lequel nous devons le désirer. Voilà encore quelque chose de très important. Et il précise en sorte que le Notre Père informe toute notre vie et toute notre affection. C'est-à-dire que le Notre Père ne nous dit pas seulement ce que nous devons demander, mais ce que nous devons désirer. C'est-à-dire que le Notre Père va modeler notre vie. Notre vie est une vie de désir dans laquelle nous jouissons des trésors que Dieu nous a donnés. Nous devons désirer jouir des trésors. Quels sont les trésors dont nous devons désirer jouir? Devons-nous désirer jouir de la richesse? Devons-nous désirer jouir, etc. Le Notre Père commence par nous fixer la fin, c'est-à-dire le but. Là encore, il y a une leçon. Sans vouloir faire de la philosophie en parlant de ce qui est la fin et de ce qui est pour la fin, malgré tout, cette philosophie élémentaire est un petit peu trop oubliée. On se précipite aujourd'hui à demander n'importe quoi, n'importe comment, et trop souvent, on se précipite à demander ce qu'on a l'impression d'avoir dont on a l'impression d'avoir le plus besoin en fonction de nos impressions. Et du coup, nos désirs ne sont pas en ordre. Ce que nous devons désirer en premier, c'est le but, c'est la fin. Comme saint Ignace nous le rappelle dans ses exercices, principe et fondement, pourquoi ai-je été créé ? La fin, c'est Dieu. Et Dieu est notre fin de deux façons. Il y a un double aspect dans l'amour de Dieu. Il y a l'amour par lequel nous aimons Dieu en lui-même et nous aimons sa perfection. Je vous ai dit, je crois, en parlant de la charité, je vous ai dit qu'il s'agissait d'un amour de bienveillance. Nous voulons le bien de Dieu, non pas que nous pouvons le lui procurer, bien entendu, mais notre désir, c'est que Dieu soit bon. C'est-à-dire, nous ne demandons évidemment pas, saint Augustin l'explique cela, nous ne demandons pas évidemment que Dieu soit bon, puisqu'il est bon, et puis que ça, nous savons très bien que ça ne peut pas changer. Mais comme le Notre Père ordonne nos désirs, le Notre Père nous fait désirer, aimer, vivre en fonction de cette perfection divine. Que votre nom soit sanctifié, il faudrait développer le terme sanctifié d'ailleurs, qui exprime l'unité de Dieu, la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. Donc nous nous orientons vers Dieu trois fois saint, trois fois grand, trois fois pur. Détaché, saint ça veut dire détaché de tout ce qui est profane, détaché du monde d'ici-bas. Nous nous orientons vers lui. Et nous mettons notre joie à ce qu'il en soit ainsi. C'est l'amour de bienveillance. Il y a dans l'amour un deuxième aspect, à savoir qu'il est normal que nous voulions jouir de cette perfection de Dieu, parce que Dieu, en nous créant, nous a fait pour cela. Nous ne serons parfaits en tant que créature qu'à condition d'être unis à Dieu. La perfection de l'homme, c'est l'union à Dieu. Et c'est donc la deuxième demande du Notre Père, nous voulons jouir de sa gloire, et c'est la demande que votre règne arrive. Ces deux premières demandes sont essentielles parce qu'elles posent le but que nous devons poursuivre, elles orientent notre vie, nos désirs, tout ce que nous sommes, tout ce que nous devons vouloir. Maintenant, il faut prendre les moyens. Et les quatre demandes suivantes portent sur les moyens d'obtenir cette fin que nous avons posée, ce but. Le premier moyen, Alors, il y a les moyens qui sont indispensables par eux-mêmes, par soi. J'allais dire, cela va de soi. Mais encore, faut-il y penser. Et le premier moyen qui va de soi, qui nous permet de mériter ce ciel que nous désirons, qui nous le donne infailliblement si vraiment nous prenons le moyen, c'est de nous soumettre à la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu, si sage, fiat voluntas tua, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que nous vous obéissions aussi parfaitement que les anges vous obéissent. Et les anges, par leur parfaite soumission à Dieu, jouissent de Dieu pleinement, et c'est ce que nous voulons jouir de Dieu pleinement, et c'est pourquoi nous voulons obéir à Dieu. Seulement, vous savez, je vous en parlerai un peu plus lorsque nous parlerons de la grâce, vous savez que obéir à Dieu n'est possible qu'avec la grâce de Dieu, c'est justement l'objet de la prière, pour que Dieu nous donne sa grâce, qu'il veut nous donner, il veut nous rendre capables de nous soumettre à lui, mais il a décidé que cette grâce ne nous serait donnée que si nous nous disposons, et c'est ce que nous faisons, en lui promettant d'accomplir sa volonté sur la terre comme au ciel. Nous avons besoin ensuite d'instruments, dit saint Thomas d'Aquin. Ce qui est intéressant avec saint Thomas, c'est qu'il est très clair et très simple, tout en étant très élevé. Un instrument, ça nous parle. Des instruments, c'est-à-dire des choses que nous allons prendre en main et qui vont nous permettre de faire la volonté de Dieu. Et par là, de mériter le ciel, la gloire de Dieu et son règne. Qu'allons-nous prendre en main ? Notre pain quotidien. Le pain quotidien va désigner deux choses. Tout d'abord, le pain eucharistique, c'est-à-dire la très sainte Eucharistie. C'est un résumé parce que, comme notre Père doit être à la portée de tout le monde, qu'il doit être une prière concise et non pas un traité de théologie, notre Seigneur ne dit pas « vous demanderez tous les sacrements », etc. Il dit « vous demanderez ce pain quotidien, ce pain supersubstantiel », dit saint Luc, qui désigne à lui tout seul la communion, à travers la communion l'Eucharistie, la messe, et à travers la messe, évidemment, tous les autres sacrements. Saint Augustin, comme saint Thomas d'Aquin, nous le disent expressément. Ce n'est pas moi qui invente, ce n'est pas moi qui brode pour rattacher le sacrement. C'est le Christ qui a inclus dans cette demande précisément ce que je viens de vous dire. Le pain, notre pain, c'est également la nourriture. À travers la nourriture, c'est tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Donc également le vêtement et tout le reste. Mais pourquoi la nourriture ? Parce que la nourriture désigne à l'évidence ce qui est le plus nécessaire. Le vêtement, à la limite, on peut quand même s'en passer, surtout quand il fait chaud. La nourriture ne peut jamais s'en passer. Et il va falloir que cette nourriture soit mise au service de Dieu. Elle est un moyen, elle est un instrument. Et nous la demandons, oui, parce que nous avons le droit de demander les choses temporelles. De même que nous avons le droit de demander la santé pour servir Dieu. Une mère de famille a le droit de demander la santé pour bien élever ses enfants. Mais à condition que ce soit un instrument pour mériter le ciel, c'est-à-dire pour faire la volonté de Dieu. Dans les moyens pour parvenir à la fin, il y a enfin les moyens qui visent à écarter les obstacles. Le premier obstacle, c'est le péché. Et dimitte nobis debita nostra, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous avez deux choses. Saint Thomas ne s'attarde pas sur la deuxième partie de cette demande, il insiste sur la première. Nous demandons à être pardonnés du péché, et puisque nous le demandons, nous sommes conscients que le péché est une offense faite à Dieu que nous ne pouvons pas réparer par nous-mêmes. Sauf en méritant auprès de Dieu le pardon par le fait que nous-mêmes nous aurons pardonné. Dans l'Évangile, notre Seigneur, à propos du pardon, dit que on utilisera avec nous, Dieu utilisera avec nous, la mesure que nous aurons utilisée avec les autres, sauf qu'elle sera tassée. Si nous avons été miséricordieux envers les autres, nous recevrons une mesure tassée de miséricorde. Si nous avons été cruels envers les autres, nous recevrons une mesure tassée de châtiment et de la vengeance de Dieu infiniment juste. Le deuxième obstacle au péché, c'est la tentation. Et nenos inducas in tentationem. Je ne m'attarde pas sur la difficulté de traduction. Ne permettez pas que j'entre dans la voie du péché. C'est cela que cela veut dire. Cela veut dire inducas, ducere, conduire. Faites en sorte que je ne m'engage pas dans la voie du péché. Cela, mes bien chers frères, c'est très important parce que cette demande nous oblige, si nous sommes sincères. Évidemment, si nous ne sommes pas sincères, nous faisons n'importe quoi. Elle nous oblige, parce que nous voulons être sincères, à nous écarter de ce qui mène au péché, et pas seulement à nous écarter du péché. D'où l'importance des amitiés, des fréquentations, de la manière de vivre, des activités, etc., etc. Il y a un choix à faire dans les choses qui en elles-mêmes peuvent paraître neutres ou indifférentes en fonction de là où elles nous mènent. Enfin, nous devons être délivrés des peines présentes qui sont un obstacle ou qui peuvent être un obstacle. Une extrême pauvreté, la misère par exemple, ou des maladies trop pénibles, ou d'autres peines encore. Toutes les difficultés de la vie. Nous demandons d'en être libérés. Libérés, c'est-à-dire de ne pas être retenus par elles, de ne pas être enchaîné par ces peines, mais d'en être libéré de manière à pouvoir servir Dieu. Voici quelles sont les sept directions principales que notre vie doit prendre, et la prière a pour but, encore une fois, de faire en sorte que notre vie prenne ces directions. La prière n'est pas une simple prière verbale. Elle doit entraîner un changement dans notre conception de la vie et donc dans notre manière de vivre. Sinon, on prie des lèvres et pas du cœur et ni des mains. Les trois premières demandes, que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne arrive, que sa volonté soit faite, ces trois demandes ne seront parfaites qu'au ciel. C'est saint Thomas qui nous le fera remarquer encore. Nous ne nous étonnons pas que cela n'arrive pas immédiatement. Nous travaillons pour l'au-delà. Notre vie est au ciel. Notre vie n'est pas ici-bas, bien entendu. Les quatre autres regardent la vie présente. Récitons donc bien le Notre Père. Soyons conscients. Et je pense que lorsque vous réciterez votre chapelet, vous essayerez désormais d'être plus conscient de ces sept demandes, et je vous conseille d'avoir un petit résumé de ces sept demandes pour vous rappeler ce que saint Thomas vient de nous expliquer, afin que dans le chapelet, votre prière, même à la Sainte Vierge, soit orientée d'abord par les sept demandes du Notre Père. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.